Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, même confiné, vous écoutez l'équipe est sauvage. L'émission qui permet indéniablement à Europe 1 de renouer avec la cible des 15-25 ans grâce à l'insolente jeunesse des Varocs.
J'ai le nez qui me coule comme une vieille.
Et à mon insolent dynamisme qui se manifeste avant même la prise d'antenne au moment des réglages techniques, comme hier. Je suis là.
Je voudrais vous présenter quelqu'un.
Bonjour à tous, je suis là. Attends, je règle le son. Je me mets bien sur le canapé. J'ai mon petit coussin dans mon dos pour pas avoir de lombalgie. Oui, effectivement. Et mon chat, Miam, qui est là à côté du piano. Bah ouais.
C'est
et oui les jeunes, accrochez-vous, c'est reparti pour une heure d'infos et de rire en compagnie des meilleurs journalistes de la station qui s'affrontent au service de votre culture G. Et justement à ce stade de l'émission, l'invité vedette se posait toujours la question.
Alors, les deux nouveaux ringards, qui sont-ils?
Les deux nouveaux journalistes en compétition sont deux formidables champions, chacun dans leur style. On va commencer par celui qui nous attend en duplex de sa bibliothèque. Il est l'expert littérature d'Europe 1. En sa présence, on tremble à chaque phrase qu'on prononce de peur qu'il y détecte quelques fautes de français. Et on a raison, car avec lui, même les plus grands chanteurs ne sont pas à l'abri d'une mise à l'amende.
Mais bien chauffeur, mais bien chasseur, reprenez avec moi. D'ailleurs, il y a une faute. Reprenez avec moi, ouais. Il s'est déjà expliqué là-dessus.
Bonjour, inspecteur Caro.
Bonjour.
Le confinement.
Une chronique un jour là-dessus, tiens.
Mais oui, c'est une bonne idée. Oui, sur les fautes de français dans les chansons.
Et surtout les fautes de français volontaires, parce qu'il y en a effectivement qui sont peut-être volontaires juste pour la rime ou pour.
Il y en a une chez Véronique Sanson qui est très connue.
Bref, ouais. On en reparlera.
Ouais. On en reparlera une autre fois. Il vient d'avoir son idée pour la prochaine chronique. Il a gagné. Oui. Il a gagné deux heures de travail. C'est bien joué. Le confinement, c'est aussi, Nicolas, vous l'avez constaté, un terrain de jeu sémantique. Des nouveaux mots se créent.
Exactement, puisque on est dans une situation inédite. Donc il y a un nouveau vocabulaire qui apparaît et je vais vous donner quelques nouveaux mots du confinement.
Tiens, moi j'ai l'idée d'un mot tiens, qui réunirait un peu l'esprit joyeux et la bière. Ça s'appelait la confinouse.
Oh là là.
On en a parlé tout à l'heure.
C'est pas mal,
hein,
oui.
C'est pas de moi.
Allez.
La confinière.
Votre rival du jour, Nicolas, est en ligne avec nous du Perche où, à l'aide d'un gros télescope, ce passionné d'astronomie traque les étoiles filantes dans le ciel normand. Ce qui, les nuits de brouillard, n'est pas simple, d'où le célèbre adage.
C'est chercher une aiguille dans une botte de foin, y découvrir la fille du fermier et l'épouser.
Bonjour Alain Sirou.
Bonjour Mathieu, ça s'appelle la sérendipité, oui.
Eh oui, c'est ça.
C'est beau, j'adore ce mot. Vous êtes l'éminent directeur de la revue Ciel et Espace. Et cet après-midi, Alain, vous avez décidé de nous parler de l'impact du confinement de la moitié de la population mondiale sur la météo.
Ben oui, après avoir parlé du silence dans les villes et les chants d'oiseaux, du ciel clair, de la baisse des vibrations du sol, il y a un autre effet surprenant et pour le dire vraiment original du coronavirus, c'est la baisse de la qualité des prévisions météo, mais aussi et surtout une information sur ce que nous pourrons faire au sujet du climat.
Oh, des questions, mais également des réponses dans la chronique d'Alain Sirou. Alors, l'impact du confinement mondial sur le climat ou ces nouveaux mots jaillis à la faveur du confinement? Quel sujet vous plaira le plus? Nous le saurons juste avant 18h. En attendant, c'est l'heure de prendre des nouvelles de votre confinement, chers amis. Comment ça se passe chez vous en ce 36e jour? Vous nous envoyez vos messages directement sur l'adresse mail d'Eva Rock, eva.rock@europe1.fr.
Bonjour l'équipe est sauvage, bonjour les amis. Bon, alors écoutez, aujourd'hui, un point d'actualité, la balance est devenue ma pire ennemie. Je vous le dis, je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais je pense qu'il ne faut plus les sortir. Il faut les laisser là, bien rangés dans les placards, mais ce n'est pas la peine, parce que là, malgré le petit jogging, 1 km autorisé, bon, maintenant c'est à 19h, passé 19h. Bon, c'est cata, hein. Haribo doit se frotter les mains, parce qu'on en mange toute la journée. Bon alors voilà, c'était l'état d'esprit du jour, les amis équipés sauvages, on vous écoute toujours avec autant de plaisir et puis on se dit à très très vite pour plein d'aventures confinées. À bientôt.
Alors avec ou sans trop de kilos, on verra ça plus tard. C'était Isabelle qu'on remercie infiniment pour son message. Notre deuxième auditeur, il s'appelle Phil Woods. Il est saxophoniste.
Écoutez, Phil Woods.
Oui, c'est comme ça qu'il se fait appeler sur les réseaux sociaux. Il est saxophoniste et il a un petit message pour nous.
Voilà, je voulais juste dire que ce petit morceau de musique est un peu pour tout le monde, confiné bien sûr. Le truc qui m'embête un peu, c'est que j'aurais dû pécho avant ce confinement parce que je me retrouve tout seul.
Ah ça c'est pas con, et là, c'est une réflexion que vous faites souvent d'ailleurs.
Il est saxophoniste du groupe Absinthe à Bordeaux, ça s'invente pas, voilà, on l'embrasse, c'est un fidèle auditeur et on le remercie en plus pour le petit morceau de saxo qu'il nous a joué exprès pour nous. Voilà.
Là ça me donne envie que vous sortiez votre clairon, Eva.
Oui bien
ça
sûr.
Ça fait trop longtemps que vous ne l'avez pas dégainé.
C'est vrai, je vais y repenser, je vais y repenser.
J'espère bien.
Ouais.
Ils sont confinés mais gays, si on va dans le sens de Nicolas Caro, ils sont donc configués. L'équipée sauvage continue, configuément.
Europe 1.
Si pour beaucoup le confinement est une épreuve, pour certains c'est une chance. Par exemple, pour notre consultant scientifique Alain Sirou, qui a pu se retrancher dans sa maison de campagne en Normandie, son petit paradis, car Alain ne s'en est jamais caché.
J'ai deux passions dans la vie, la sexualité de groupe et les maisons normandes.
Sans oublier la science, Alain, hein, on l'oublie pas.
Absolument,
et justement,
exactement.
Cet après-midi, c'est cette troisième passion qui est au cœur de votre chronique, puisque vous allez nous expliquer l'impact étonnant du confinement sur la météo et à plus long terme, sur le climat de notre belle planète, juste après Willy Deville, Hey Joe, sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm gonna see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm gonna buy me a blue steel 44. You know, I'm going downtown. And I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. Well, I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey, hey, Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey, Joe, I heard you shot your old lady down. Hey, Joe, you know, I heard that you shot your old lady down. Yes, I did. Cause I caught her messing around, messing around, messing around town. Well, all right.
C'était Willy Deville sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Chaque après-midi, même confiné, même à distance, les journalistes d'Europe 1 continuent de se disputer le prestigieux titre de chroniqueur du jour. Et justement, notre prochain concurrent est tout simplement l'actuel leader du championnat Europe 1. Alain Siroux, vous êtes simply the best, évidemment. Vous êtes aussi notre expert scientifique. Et attention, car aujourd'hui, vous vous aventurez sur les terres d'une science très pointue qu'on appelle la météorologie et dans laquelle Europe 1 compte un ponte en la personne de Laurent Cabrol, dont les techniques de prévision météorologique font appel aux toutes dernières innovations technologique.
Je suis avec Gribouille, mon chat. Il n'a pas passé la patte derrière l'oreille, donc à mon avis, il ne pleuvra pas.
Ah oui, d'accord.
Donc attention, bah voilà. Alain, vous parlez sous le contrôle du professeur Cabrol.
Et de Miam.
Aujourd'hui, vous vouliez évoquer l'impact du confinement sur la météo et à plus long terme sur le climat.
Oui, parce que Laurent Cabrol, lui, a un instrument important, c'est le doigt mouillé. Mais pour les scientifiques, il y a des ordinateurs, des modèles. Et ces modèles sont alimentés par des informations qui proviennent de l'extérieur. Et c'est des mesures. Et en fait, un des effets surprenants du Covid, c'est la détérioration des prévisions météo. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a une baisse du trafic aérien qui est extrêmement importante et qui prive les agences météo d'à peu près 10% de données qui alimentent les modèles. Vous savez, les avions, c'est à peu près 800 000 observations par jour qui sont transmises aux météorologues pour mesurer les températures, les pressions, la vitesse, la direction des vents, puis aussi donner des informations sur la composition de l'atmosphère, l'ozone, la vapeur d'eau, le CO2. Et en fait, on a une baisse graduelle de fiabilité des prévisions, tout simplement parce que il n'y a plus ces informations. Et ces informations qui donnent de quoi mouliner en quelque sorte les ordinateurs font baisser les prévisions d'à peu près 3% dans l'hémisphère nord. Alors vous dites 3%, c'est pas beaucoup, sauf que quand vous avez une tempête qui arrive sur la côte,
ça
peut faire la différence.
Ouais.
Et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi les océans. Dans les océans, vous avez des bateaux, vous avez des gens qui mesurent des données marines. Vous savez, l'océan, c'est 2/3 de la superficie de la Terre, pour la température de l'eau, pour la direction des courants, etc. etc. Donc, il a fallu réagir, et Météo France, par exemple, a doublé la quantité de ballons sondes qui sont expédiés dans l'atmosphère pour mesurer tout ça, à 20 ou 30 km d'altitude, mais globalement, quand même, tout ça, ça affecte l'analyse, la prévision, les avis et les alertes météo. Et c'est très surprenant de voir, effectivement, cet impact sur la prévision.
Et alors, le virus, Alain, gêne les prévisions météo, mais est-ce que pour le climat, ça change quelque chose, le climat global?
Alors ça, justement, alors ça, c'est terrible parce que non, pas du tout. C'est-à-dire, il n'y a pas de répit. Et très clairement, les dernières
annonces qu'on a eues, les émissions de CO2 ont baissé, tout ça.
Ben non. En fait, la quantité de gaz a baissé, l'émission, mais les températures qui sont vraiment, vous voyez, c'est le thermomètre, à l'exception de quelques régions comme l'Atlantique Nord en ce moment, mais sur la grande majorité de la planète, les hausses de température continuent fortement. Si vous prenez la Russie ou même en ce moment de la mer Caspienne à la côte Pacifique, on voit et on assiste à des hausses jusqu'à 8 degrés au-dessus des moyennes climatiques. Le mois de mars que nous venons de vivre a été le plus chaud depuis 1880. La banquise arctique elle-même se rétracte plus que d'habitude. Et on voit bien que l'accord de Paris, conclu en 2015, qui stipule qu'il ne faudrait pas atteindre plus de 2 degrés supplémentaires et se rapprocher le plus possible des 1,5 degré, on y est presque déjà, puisqu'on est au-delà de 1,2 degré.
Mais pourtant, Alain, ce virus nous dit quelque chose sur notre avenir. Pour la première fois, on voit ce qu'il va nous falloir faire pour éviter un réchauffement climatique catastrophique. En quoi ?
Alors ça, c'est extrêmement important, vous avez raison. En raison de l'arrêt des activités, transport, industriel, etc., on voit aujourd'hui une baisse des émissions de gaz à effet de serre d'environ 4%. Ça, c'est ce qu'on voit. Et si on veut tenir l'augmentation des températures à 2 degrés maximum d'ici à 2100, il va falloir, tenez-vous bien, baisser les émissions planétaires de 4% par an. C'est même 4%, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. 4% chaque année par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'un Covid supplémentaire tous les ans.
Oula, oui.
Vous voyez ce qu'il va falloir faire comme effort. Et ça, c'est ce que le virus nous permet de constater aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte,
tous de l'intensité de l'effort, de sa constance qu'il va falloir porter pour les années qui viennent. Si on veut tenir les objectifs de Paris, il va falloir que ça intervienne sur les transports, l'agriculture, le commerce. Il va falloir diviser les émissions par 4. Et c'est d'autant plus important que finalement, on mesure chaque jour davantage le lien qui existe entre le changement climatique et l'émergence de nouveaux virus comme le Covid.
Eh bien, merci Alain Siroux. Belle chronique, même si question météo. Vous avez quand même encore pas mal de leçons à prendre avec notre expert Laurent Cabrol, notamment en matière de concision.
Je me tourne vers Laurent Cabrol pour la météo.
Et pour une journée d'ensemble, bon, voilà.
Voilà, apprenez la concision à l'école des plus grands, celle de Laurent Cabrol. Merci quand même Alain Siroux.
Europe 1.
Elle est à mon égard ce que Judas fut au Christ. Elle colporte sur moi les pires rumeurs, élabore à mon encontre les plus funestes desseins.
J'ai une réputation épouvantable. Il se cherche tellement, il a l'article. Dans un mois, c'est la cure de sommeil, et moi je récupère l'émission pour moi toute seule.
Pourtant, inspiré par l'exemple de Jésus, je continuerai de l'aimer jusqu'au bout et d'écouter religieusement ses conseils télé. Qu'est-ce qu'on garde ce soir sur les écrans, Eva Rocari.
Europe 1, l'équipe est sauvage. 16h-18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
36e équipée sauvage confinée, et dans les moments de doute, de découragement, elle est ma boussole, mon phare. Celle qui me rappelle toujours, avec ses mots à elle bien sûr, que même confinée, on doit continuer de vous divertir, car comme elle le dit si bien...
Comme quoi on a une utilité sociale quelque part, vous voyez Mathieu.
Et oui, quoi qu'en disent certains, on a une inutilité sociale,
non,
une utilité,
utilité
tout à fait indéniable.
Oh là là.
Surtout quand vient l'heure, Eva, de vos précieux conseils télé. Qu'est-ce qu'on ferait sans vous? Bon. Je ne sais pas ce qu'on ferait, on éteindrait la télé tout simplement.
Piéton, comme disait Bourville. Alors, je vais être très claire, jamais je ne vous aurais proposé un tel programme habituellement, mais les circonstances font que je pense quand même qu'on a besoin de se détendre, de rire et si possible en famille. Alors rendez-vous ce soir sur C8 vers 21h15, Mathieu avec trois garçons que vous connaissez très bien, Les Inconnus, en l'occurrence Didier Bourdon, Pascal Légitimus et Bernard Campan. La chaîne en fait rediffuse les 30 meilleurs sketchs du trio. Alors ça va de Télémagouille à Bioman, tournée Ménage, les rap tout. Qu'importe si on les connaît déjà par cœur, tous ces sketchs, ça fait quand même du bien de revoir ces morceaux d'anthologie des années 90. 30 ans déjà, vous vous rendez compte. Hein. Et pourtant Les Inconnus, franchement, ils n'ont pas vraiment été égalés, je trouve, en tout cas pour moi, en matière de parodie d'émissions de télé. Je prends le pari que même vos ados pourraient se marrer ce soir. C'est sur C8 à 21h15, les 30 plus grands sketchs des Inconnus.
Et si je peux me permettre rapidement, juste là, il y a les 30 sketch, on les connaît tous par cœur, mais oui. En revanche, si vous fouinez sur internet, vous retrouvez des sketchs un peu moins connus, notamment les sketchs sur les parlers différents selon les professions, avec les langages codés des différentes professions.
Vous connaissez
professions,
ça, vous connaissez ça par cœur, vous, c'est
qui
sûr.
Est ouais. Drôlissime, j'en cherche toujours pour trouver des sons à la con pour l'émission. Il y a toujours des pépites là-dedans, ils étaient vraiment prolifiques. Il y a un nombre de sketchs qui est incroyable.
Voilà, vous en aurez un petit bout ce soir.
C'est de chercher un peu sur internet aussi. Ouais. Sauf que les ados, eux, bloquent surtout sur Netflix. Ouais,
c'est
vous les connaissez,
faux.
Ces ados.
Voilà, c'est pas faux. Et alors, depuis hier, ils peuvent, vous pouvez d'ailleurs, découvrir une autre star des années 80 et 90, une immense star,
oh
peut-être, mais oui, la plus grande quand on parle de basket américain, Michael Jordan, joueur emblématique des Chicago Bulls, qui est le sujet donc d'une nouvelle série documentaire intitulée The Last Dance. Alors, The Last Dance, c'était le nom qui avait été donné par l'entraîneur Phil Jackson à la saison 97-98, qui a marqué un tournant à la fois dans l'histoire du club et dans la vie de Michael Jordan. Vous savez, quand il arrive à Chicago en 84, Jordan, en fait, l'équipe, elle est vraiment, c'est une équipe médiocre,
au fond,
elle est au fond, les habitants de la ville se foutent totalement du basket et personne ne croit en fait que l'arrivée de Jordan va changer vraiment quelque chose. Lui, il va surtout découvrir les frasques de ses partenaires. Aux journalistes qui lui demandent s'il est vrai qu'il y avait beaucoup de drogue, première réaction de Jordan. Voilà, ça il rigole, hein. Mais écoutez bien deux secondes plus tard ce qu'il raconte.
J'entre et pratiquement toute l'équipe est là et c'était des choses que je n'avais jamais vues de ma vie, tu sais, en tant que jeune gosse. Il y a de tout, il y a des lignes, il y a les fumeurs d'herbe, il y a des femmes. Donc la première chose que je dis, c'est écoutez, je me tire. Tu sais, parce que la seule chose à laquelle je pense, c'est que s'ils viennent faire une descente là tout de suite, je suis aussi coupable que les autres vu ce qu'il y a dans cette pièce. Et à partir de ce moment-là, tu sais, j'étais plus ou moins seul.
Alors c'est le début de sa carrière au Chicago Bulls et ce incroyable. Documentaire est encore une fois très réussi. Alors grâce aux images d'archives, à la fois familiales et professionnelles, parce qu'une équipe avait suivi les Bulls pendant toute la saison 97-98, donc les images elles sont incroyables. Il y a évidemment un long entretien accordé par Michael Jordan que vous venez d'entendre et puis il y a un casting de luxe côté témoignage. Écoutez bien, toutes les stars du parquet sont là, ça va de Scottie Pippen à Dennis Rodman en passant par Magic Johnson, mais aussi les entraîneurs, les patrons de club et les fans au rang desquels, Barack Obama et Bill Clinton, voilà, qui témoignent dans le film. Tout y est, le récit du destin de Jordan, les rivalités, le fonctionnement de ce sport aux États-Unis, aussi l'argent, les coulisses. Et puis il y a le suspense des matchs avec les plus belles actions de Jordan. Deux épisodes pour l'instant sur les 10 sont disponibles sur Netflix pour découvrir qui était ce génie du basket.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander, c'est est-ce qu'on voit quand même un peu de basket ou c'est axé
vous en voyez
sur
beaucoup,
les coulisses?
Hein. Non, franchement, vous voyez beaucoup de basket. Si vous n'aimez pas ça, forcément, ça va être un peu compliqué. Toutes les plus grandes actions.
Si on aime le basket, c'est un beau reportage.
Mais vous allez découvrir les matchs quand il était encore en universitaire. Et c'est absolument incroyable. Et tout le monde dit que c'était déjà un génie. Quoi. Ouais, non, vraiment, c'est vraiment très très réussi.
Et alors, Eva, c'est la question rituelle, le mix du jour, à quoi ressemble-t-il? Qu'avez-vous concocté?
Avec Sébastien Bordonave, on a déniché sur les réseaux la voix, la très belle voix de la journaliste Isabelle Iturburu qui chante avec ses copains d'enfance, les fables de Fabrice Lucchini, en verlan. Voilà. Ouais. Et un duo de potes, Louis Bertignac, Jean-Louis Aubert.
J'avais un ami, mais il est parti. Après mon sale le bévois, vreux ou un gelard le gbé. L'espétons la loi prême, le nard ressensissait et dit mon bon sieur, apprenez que tout bœuf là vit au pendet de celui qui l'écoute.
Ça fait du bien cette petite musique, hein, vous avez vu ça?
Ça fait
dans tous les genres différents, mais voilà, c'était parfait.
En revanche, j'ai un message personnel à passer à Fabrice Lucchini avec ses petites vidéos actuellement, qui est que Fabrice évite de me piquer ma copine, puisque le soir maintenant, au moment où je voudrais entreprendre d'autres choses avec elle, elle me dit non, je ne peux pas, je regarde Fabrice Lucchini.
Oui, mais ça dure que 5 minutes, vous pouvez récupérer.
Ça dure que 5 minutes, mais de 5 minutes en 5 minutes, son talent commence à me déranger. Voilà, c'était mon message à Fabrice Lucchini.
Europe 1.
Il est le gendre idéal dont rêvent toutes les mamans pour leurs filles. Beau, cultivé, lettré, 9 T cumulés dans Télérama. Cerise sur le gâteau, il serait également un amant inépuisable, sans pour autant s'en vanter.
Je sais pas, moi j'en fais 3 d'affilée, mais je trouve ça énorme.
Oh oui, Nicolas Caro n'est pas loin du portrait robot de l'homme parfait. Dans un instant, il vous fait découvrir ces mots, ces néologismes qui ont été formés durant le confinement. Ce sera juste après Charlotte Gainsbourg, The Song That We Sing sur Europe 1.
Europe 1. 16h-18h, l'équipée sauvage.
I saw somebody who reminded me of you before you got afraid. I wish that you could have stayed that way. I saw a little girl, I stopped and smiled at her. She screamed and ran away.
C'était Charlotte Gainsbourg, The Song That We Sing sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage, la grande battle des journalistes continue avec l'entrée en lice d'un des concurrents les plus polyvalents de notre championnat. À l'aise dans tous les registres, il peut dans la foulée nous parler de l'art de la métaphore chez Mallarmé, occuper sa fille en lui chantant la Reine des Neiges.
Libéré, délivré.
Avant de s'occuper le soir venu de Madame Caro.
It ain't over till it's over.
Wow. Véritable force de la nature, Nicolas Caro, le monsieur livre d'Europe 1, nous parle aujourd'hui des néologismes du confinement. C'est-à-dire que en cette période, des mots se créent, Nicolas.
Oui, et je commence par une citation de Camus, parce que c'est toujours très chic.
Par classe.
Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. C'est vrai qu'un langage approximatif, ça peut conduire à des malentendus, donc à des conflits, donc à de la colère, de la haine, etc. Ça, c'est Star Wars, on connaît. Du malheur, quoi. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, que le langage change, évolue avec le monde. On le voit avec les technologies, par exemple. Quand on invente l'ordinateur, il faut bien trouver un mot pour le nommer. Un mot qu'il faut donc inventer. Pareil pour le Wi-Fi ou le Bluetooth. Bluetooth, au passage, vous connaissez l'histoire ?
Pas du tout.
Alors, ça veut dire dent bleue, si on traduit littéralement. Ouais. C'était le surnom d'un roi danois du 10e siècle. Il a unifié les tribus danoises à l'époque. Et quand l'ingénieur d'Intel a conçu cette technologie qui unifie donc les téléphones entre eux, il a pensé à l'histoire que l'un de ses collègues scandinaves d'Ericsson venait de lui raconter l'histoire du roi Bluetooth. Et voilà, c'est vrai.
C'est génial. Ah, bravo.
Ah, bah alors là, c'est diablement compliqué. Ah oui, alors, pourquoi vous nous parlez de tout ça aujourd'hui, en fait, Nicolas ?
Parce qu'on vit une situation inédite. Alors, il faut inventer des mots. C'est ce qu'a fait un certain Olivier Auroy, repéré par Le Parisien. Son métier, c'est de trouver des noms pour des produits, pour des marques. Et donc, pendant le confinement, il s'est amusé à inventer des mots pour décrire les nouvelles situations. Alors, par exemple, savez-vous ce que c'est qu'un psychopathe en deux mots avec un trait d'union ?
C'est moi, c'est un mec qui fait
voilà,
des pâtes tous
exactement,
les jours.
Qui remplit
c'est ça, c'est
son
moi,
coffre.
Je suis un psychopathe.
De pâtes. Une bavurne, ça, c'est l'élection de trop. Médicaliné, c'est l'action d'applaudir le personnel soignant le soir à
20h. Ah, c'est joli, c'est beau ça, médicaliné.
Et il y a le footing aussi.
Ah, ça existe déjà.
Oui, mais footing, F-O-U-T-I-N-G, c'est le jogging malgré les consignes. On s'en fout, quoi, le footing.
Ah oui.
le savantard, j'aime beaucoup. Le savantard, c'est celui qui dit qu'il savait. On en connaît tous.
Ah oui, et qui se vante.
Voilà. Beaucoup de savantards. C'est ça, on est 67 millions.
Lui,
il
savait
savantards.
Bien. Quoi. Confinitude, ça, c'est la quarantaine illimitée.
Ah bah, donc comme quoi Ségolène Royal avait rien inventé.
La bravitude. Ouais.
Avec la bravitude.
Effectivement. Bon, je ne vous les fais pas tous, il y en a plein, mais on peut les consulter sur son compte Twitter.
Olivier Auroy, donc. Mais on a toujours inventé des mots, non ?
Bien sûr, les écrivains surtout, évidemment. Par exemple, Colette a inventé le mot « aimeuse », qui est joli. C'est une amoureuse,
c'est beau.
Mais le cran du dessus. Aimeuse. Il y a le pianoctel de Boris Vian, donc qui mélange
bien sûr,
un piano qui fait des cocktails. La foultitude, ça c'est Victor Hugo. Mélange de foule et de multitude.
Ça n'existait pas avant.
Eh bien non. C'est
d'accord.
Ce que j'ai appris en travaillant pour vous, voyez. Ce sont des mots valises, donc qui combinent plusieurs mots. Il y a le prôme de Francis Ponge. Le prôme, c'est un mélange de poème et de prose. Il n'y a qu'à se pencher, il y en a plein des néologismes. Plus rare, la ponctuation. Certains écrivains se sont mis à inventer des signes de ponctuation. C'est le cas d'Hervé Bazin, l'auteur de Vipère au point. Le point de certitude, par exemple.
Alors, c'est
une
c'est
sorte
génial,
de point d'exclamation, mais avec une petite barre horizontale en plus qui forme une croix au-dessus du point. Ça, c'est donc le côté définitif de la phrase. Il y a, alors celui-là, d'accord. Il est magnifique. C'est le point d'acclamation. C'est un point et deux traits qui partent en oblique au-dessus, comme des bras levés qui acclament. Le point d'acclamation et non d'exclamation.
Comme un V avec un...
Exactement.
D'accord.
Il y a le point d'amour aussi. Donc c'est un point et deux points d'interrogation qui se font face. Ça forme un cœur, c'est très mignon.
Ah oui, ça forme un petit cœur. Ah oui, c'est comme les emojis, quoi.
Voilà,
en fait.
Exactement.
Et depuis, on a inventé les emojis, les smileys.
C'est pareil.
Et c'est la suite logique,
voilà.
En fait, tout ça,
bah
Nicolas.
Exactement.
Eh bien, merci beaucoup, Nicolas,
formidable.
Pour cette chronique drôle récente. Un mot que j'ai inventé qui signifie drôle et intéressant.
Europe 1.
À suivre, comme chaque jour, vers 6h-20, on ouvre l'album Souvenir de l'équipe sauvage. En plus de 150 émissions, on a reçu tellement d'invités merveilleux, des stars qui nous ont bluffés par leur générosité, comme Frédéric Bourali qui nous avait composé une chanson qui s'était ensuite accompagnée à la guitare, Thibaut de Montalembert qui nous avait joué de l'harmonica en direct. Même ceux qui n'avaient pas d'instrument sous la main, comme André Manoukian, avaient proposé de faire un geste quand même.
Par contre, je peux faire un toucher rectal si ça vous intéresse, Mathieu. Enfin bon, voilà.
Bref, de beaux souvenirs dans lesquels nous allons nous replonger dans quelques secondes.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipé sauvage. L'équipé sauvage sur Europe 1,
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Au 36e jour du confinement, c'est un rendez-vous bien installé désormais chaque après-midi vers 6h20 avec Eva. On vous propose de réécouter une interview emblématique de l'équipée sauvage. Aujourd'hui, celle du dessinateur Zep, qui publiait en septembre dernier une BD réservée aux adultes, au dessin très
explicite. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié.
On avait bien ri, même si en découvrant certaines planches, quelques-uns de nos journalistes avaient subitement pris conscience de la pauvreté ou en tout cas de la monotonie de leur vie sexuelle, comme ce malheureux Emmanuel Duteil.
Non, mais j'ai souvent des plaintes d'enfants en fait en dédicace qui me disent ah, pourquoi nous on peut pas avoir un pissex. Ce que je leur dis, c'est que c'est plus drôle à partir du moment où on a une vie sexuelle.
Ah, sauf si elle est ratée.
Mais bon, pour ceux qui, comme Eva, se sont reconnus dans chacune des planches, ce fut une belle après-midi. C'était le 20 septembre dernier. Bonjour Zep.
Bonjour.
Vous n'aimez pas l'expression, je ne dirais donc pas que vous êtes, c'est vrai que c'est con comme expression, le papa de Titeuf, mais vous vous définiriez comment? C'est vraiment, c'est un personnage quand même qui vous colle à la peau, Titeuf, il vous suit partout où vous allez.
Ah bah il me suit depuis bientôt 30 ans maintenant, ouais. Donc non, je me sens pas être son papa, mais de plus en plus j'ai la tronche de son grand-père, donc il faut que je m'habitue.
Aujourd'hui, vous nous présentez donc une autre BD destinée, elle, seulement aux adultes, hein, on peut le dire, Happy Sex 2. 10 ans se sont écoulés depuis le tome 1, qui avait déjà été un gros carton. En 10 ans, le sexe, en tout cas notre rapport au sexe, a beaucoup changé.
Disons que mécaniquement, ça fonctionne toujours un petit peu de la même manière, mais il y a pas mal de nouvelles choses. Il y a des nouveaux rites de rencontre, hein, par tous les réseaux sociaux, les sites de rencontre. Ça a pas mal changé. Donc on peut pratiquer un sexe très conso, c'est-à-dire qu'on va commander son partenaire comme on commanderait une pizza un petit peu, et on peut avoir des rapports sexuels avec des gens qu'on ne connaît que depuis quelques secondes. Donc ça c'est assez particulier, c'est nouveau. Je pense qu'il y a aussi on est envahi par la pornographie encore plus qu'avant. Donc pour la nouvelle génération qui a appris à faire l'amour par la pornographie, ça donne des comportements assez particuliers quand même, parce que la pornographie, c'est, même si elle s'est multipliée, elle n'a pas tellement multiplié son contenu. Ça dit c'est de plus en plus la même chose, on a même réduit de plus en plus le contenu, c'est-à-dire qu'on est passé d'histoires érotiques un peu longues, avec quand même un petit peu de scénario.
À ce qu'on appelle le gonzo.
Voilà, du gonzo, mais du gonzo de 3 minutes, on ne voit plus que le gros plan de la pénétration. Et puis on est face à plein de jeunes qui pensent que l'épanouissement sexuel, c'est l'éjaculation faciale, donc ce n'est pas forcément top.
Et on en parle dans ce livre avec beaucoup d'humour, c'est piquant, c'est grinçant, Happy Sex 2. Déjà, j'insiste là-dessus, car vu que Titeuf s'adresse aux adultes mais aussi aux enfants, il pourrait y avoir une petite confusion. Happy Sex 2, c'est juste pour les grands. Quand on ouvre ce livre, ce que je ne ferai pas là sur europe1.fr, c'est très explicite quand même. On peut dire c'est pornographique. Vous ne définirez pas comme ça.
C'est pas pornographique parce que c'est pas destiné à exciter le lecteur.
Non,
c'est un album d'humour, mais c'est
bien
un album d'humour pour les grands. C'est écrit Happy Sex sur la couverture. Il est vendu emballé dans du plastique avec un sticker réservé aux adultes. J'ai l'impression qu'on a ceux qui iront jusqu'à l'ouvrir, ils devraient être un petit peu avertis. Quand même.
Certainement. Eva, vous vouliez ajouter quelque chose?
Non.
Parce que vous y connaissez un tout petit peu.
Je me demandais si vous étiez inspiré aussi de ce que pouvaient vous raconter vos enfants.
Non, alors ils sont très pudiques de ce côté-là.
N'oubliez pas qu'on est en Suisse, c'est calviniste, on dit pas tout. Mathieu Charrier.
En revanche, il s'est inspiré de son propre corps, je crois.
Ah bah c'est-à-dire que je suis mon premier modèle, voilà, donc c'est pas toujours facile de trouver quelqu'un qui veut poser pour vous. Comme par bonheur je suis tout seul dans mon atelier, donc
Zep, page 21,
oui.
Franchement, dis bravo.
Ça c'est le métier de dessinateur, hein, on fait de la caricature aussi. Donc.
Rire du sexe, c'est ce que fait admirablement Zep dans sa BD Happy Sex 2, BD réservée aux adultes, on le rappelle, mais sacrément jubilatoire. Il y a quel pourcentage de vécu dans ces 60 planches, Zep, franchement? Parce qu'il y a même des situations.
Il y a 17% de
vécu.
Mais je ne peux pas dire lesquels.
On peut pas dire lesquels.
Pas celle-là avec le grand Yuka, en tout cas.
Celle-ci, non. Eva ?
Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que vous évoquez beaucoup les pratiques qui sont dues au site de rencontre. Mais une chose qui m'a marquée aussi, c'est toute la sexualité post-MeToo. On a l'impression que vous l'avez vraiment pris en compte et la différence des relations entre hommes et femmes. Les femmes sont extrêmement présentes et vous les mettez en valeur à travers vos planches.
Ouais, c'est quelque chose qui a changé. Je me suis pas vraiment rendu compte en le faisant, mais c'est vrai qu'en le lisant à la sortie par rapport au tome 1, les femmes sont plus sont des personnages qui revendiquent plus le plaisir, le droit à l'orgasme, de choisir leur sexualité. Mais ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé en 10 ans. MeToo a fait beaucoup pour ça. Et le droit aussi de... Aujourd'hui, on peut parler de masturbation, c'est plus quelque chose de honteux, c'est plus synonyme d'une pauvre sexualité. Au contraire, ça fait partie de l'épanouissement personnel. Et c'est vrai, quand on va, on ne sait plus des sex shops qui étaient un peu sordides il y a 20 ans. Aujourd'hui, ça s'appelle les love shops. Ça ressemble vraiment à un magasin de jouets. On a envie de tout acheter. Tout est vachement joli. Ça ressemble à des trucs designés.
Le jour, mon fils m'y a emmené l'autre jour. Il est entré dans le magasin. J'ai pas eu le temps de. Il est entré. Il a dit ah, c'est rigolo. Et j'ai dit ah, oui.
Le temps que je comprenne. De couleurs, c'est génial.
Il y a un clin d'œil à Titeuf d'ailleurs, parce qu'il y en a un de sextoys que vous représentez avec la tête de Titeuf.
Il y a un sextoy Titeuf. Il n'existe pas.
C'est dommage.
On attend la proposition.
Europe 1.
36e jour de confinement, on a beaucoup parlé de ces Parisiens qui étaient partis disséminer le virus en province en rejoignant leur maison de campagne. Il est le prototype de ce Parisien. 36 jours qu'il pollue la Bourgogne avec son gros 4x4, effrayant les locaux en tapant des grosses accélérations en sortie de village. Heureusement, Olivier Pouls a une qualité, il excelle en cuisine. Et cette semaine, dans Délices in Extremis, il vous propose des recettes faciles à réaliser en famille, histoire d'occuper un peu les enfants. Il vous donne rendez-vous juste après Frankie Goes to Hollywood. Relax sur Europe 1.
Relax, don't do it when you wanna go to it. Relax, don't do it when you wanna.
Relax, c'était Frankie Goes to Hollywood, qui ne respecte donc pas le confinement, ce Frankie, sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
C'est fou ce que la région chablisienne...
Vous faites rire tout seul, hein, c'est marrant. Alors là, quand même. Hein,
non, ouais. Non, rectification tout de suite. Et je me suis fait rire en sondant la nullité de la blague, oui, en la faisant. Eva, voilà, c'est différent. C'est un rire de honte. C'est fou ce que la région chablisienne a changé depuis que, comme beaucoup de Parigots inconscients des risques de propagation du virus, il a rejoint sa résidence secondaire en Bourgogne. Le voyant arriver avec son gros 4x4, les commerçants ont immédiatement triplé leur prix. Quant aux villageois, ils ont été obligés de fermer leurs volets pour ne pas entendre le raffut. Et oui, certains ont cru que c'était la guerre.
Non, tout va bien, c'est la porte du humeur que j'ai claqué un peu violemment.
Bonjour Olivier Pouls.
Yo les amis, comment ça va?
Snoop Doggy Bag est en forme.
Mais en grande forme. Et c'est vrai que j'ai donné quelques concerts pour distraire un peu les voisins, ça a eu beaucoup de succès.
C'est ça. Bien sûr. Et essayez de distraire les familles en leur apprenant une recette de cuisine encore aujourd'hui, ça sera mieux.
Oui, vous mettez les enfants à contribution cette semaine, Olivier.
Et oui, et s'il est bien un produit qu'il est assez compliqué en général de faire manger aux enfants, ce sont les légumes.
Oh, les légumes, bah, oui. Et oui.
Alors je sais que Mathieu a un truc absolument infaillible, c'est-à-dire qu'il leur fait croire que ce sont des tagliatelles. Il les coupe très finement.
Exactement,
vous savez, avec un économe, et hop, il dit à son fils, oh, mais ce sont des pâtes oranges. Tu parles, le gamin, il a vite compris que ce sont des carottes en réalité quand même.
Ah non. Bah dites tout de suite que mon fils est con.
Ah bah non,
tombé dans le
sûrement
panneau.
Pas. Bon, alors moi j'ai une autre petite recette à vous suggérer aujourd'hui pour faire manger des légumes aux enfants. Alors vous savez que les enfants évidemment aiment et adorent en général les frites. Alors l'idée ça pourrait être de faire des frites de légumes. Ça marche d'ailleurs, on peut les plonger dans de l'huile bien bouillante, mais c'est pas terrible. Je trouve que c'est un peu mou, c'est pas vraiment croustillant et là pour le coup c'est pas très bon. Alors ce que je vais vous proposer c'est de faire des petits bâtonnets de légumes, mais façon tempura.
Ah oui,
et ça, c'est bien plus intéressant.
C'est ludique.
Vous savez ce que c'est la tempura ?
Oui.
Ah oui, c'est japonais.
Exactement. Alors, c'est très ludique à faire, et puis surtout, c'est très ludique à manger. Alors, il faut faire une pâte à tempura, et c'est assez facile. Il vous faut 100 g de farine, idéalement 50 g de fécule de pommes de terre, qu'on peut trouver dans les épiceries. Ah, c'est les cloches, l'apéro.
C'est l'heure de l'apéro.
L'apéro va bientôt possible. Pouvoir démarrer. Alors, si vous ne trouvez pas de fécule de pommes de terre, vous pouvez utiliser uniquement de la farine. Il faut bien tamiser la farine parce qu'il ne faut pas de grumeaux, c'est très important. Un demi sachet de levure, un jaune d'œuf, et alors 15 centilitres d'eau très froide. Là aussi, la température de l'eau va jouer sur la texture de la tempura. Et on peut
remplacer l'eau. On n'a qu'à foutre un glaçon, comme ça on est sûr que c'est froid.
On peut, exactement. Et si on veut utiliser autre chose que de l'eau, on peut aussi le faire avec de la bière, ça marche bien. Et je vous rassure, pour les enfants, vous n'êtes pas obligé de leur faire boire la canette. Mais au moment où vous allez cuire votre tempura, évidemment, l'alcool va disparaître. Mais la bière donne un côté un peu aérien, assez intéressant à cette tempura. Donc vous mélangez tout ça. Vous taillez vos bâtonnets de légumes. On va prendre ce qu'il y a en ce moment, hein, des petits bâtonnets de carottes. On peut prendre de la courgette, des haricots verts. Tiens, en ce moment, ça marche très bien aussi, ou des haricots plats. Mais il faut évidemment des légumes qui ne contiennent pas trop d'eau, parce que si vous faites avec de la tomate, par exemple, franchement, ça marche pas. Une casserole dans laquelle vous allez mettre de l'huile et vous allez monter à belle température. Et puis tout simplement, il suffit d'enrober chacun de ces petits bâtonnets de légumes de la pâte à tempura. On les plonge dedans et dès qu'ils remontent, il y en a pour 15-20 secondes, on les sort, on les pose sur une petite feuille de papier absorbant, on sale et on déguste.
Et voilà.
Ce qui est fantastique, c'est que c'est très peu gras en réalité, parce que la pâte à tempura, elle va justement...
Oui, c'est pas une pâte à baigner, ouais.
C'est
oui.
pas une pâte à baigner, elle ne va pas s'imbiber du gras. Bah, c'est frit, il y a évidemment un petit peu de gras, mais c'est beaucoup moins gras que des frites ou... Tout simplement, si vous plongez vos bâtonnets de légumes dans l'huile, parce que là, ils se gorgent. Et ce qui se passe, c'est que la pâte à tempura, elle empêche l'huile de pénétrer à l'intérieur. Et c'est pour ça que vous avez d'ailleurs ce côté croustillant. Rappelez-vous de vos cours de physique, vous allez voir d'ailleurs qu'il y a une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur, et les légumes vont même expulser de l'eau, et en expulsant l'eau, elles empêchent l'huile de rentrer. Donc c'est croustillant, mais c'est pas trop gras. Et puis surtout, c'est très sympa à faire en famille, vous mélangez les légumes, franchement c'est délicieux.
Ben voilà.
Je crois que le curé vous appelle là, vous n'avez pas répondu au premier appel des cloches,
allez-y,
là
allez-y.
C'est vraiment l'heure de l'apéro. Eh bien écoutez, mon idée de faire des tagliatelles avec des légumes, idée éculée d'ailleurs, n'est pas très bonne, mais celle de faire des tempura avec les enfants, c'est une très bonne idée car c'est très ludique, ils vont adorer. Merci Olivier Pouls de nous avoir fait fantasmer avec
une bouteille de Chablis de Derrière-Lifago.
En
toute discrétion, le curé, mais à bonne distance.
En toute discrétion. Amen Olivier Pouls, à demain.
Europe 1.
C'est la question qui est dans toutes les têtes juste après. Quand est-ce qu'on va trouver un vaccin? Qui va remporter l'équipée sauvage aujourd'hui? Qui va repartir chez lui auréolé d'une gloire éternelle qui durera jusqu'à demain? Qui, au contraire, repartira la tête basse sous les huées de ses collègues et le rire sardonique des Varocs? À tout de suite pour la grande finale.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Alors, après ma comparaison ratée hier entre l'équipe est sauvage et C'est dans l'air, l'émission d'Yves Calvi, qui en fait n'était plus présentée par Yves Calvi depuis belle lurette, et tenant à ne pas commettre deux fois la même erreur, j'aimerais comparer aujourd'hui l'équipe est sauvage à Question pour un champion, l'émission de Julien Lepers. Les amours présentés par Tex. Car comme ces deux émissions, l'équipe est sauvage conjugue l'humain et la connaissance. Elle ressemble aussi à une autre émission que j'adore et que je regarde d'ailleurs tous les soirs, La classe de Fabrice sur FR3. Le principe est un peu le même, de grands enfants qui se tirent la bourre pour être les meilleurs, quitte à dénoncer leurs camarades, comme Anis Mbida hier.
Je veux juste signaler qu'elle a juste copié mon empreinte anale.
Et oui, il y a de la triche, mais globalement, ils sont attachants. L'heure est venue de les départager. Qui sera élu chroniqueur du jour? On passe au qui te double.
Et on rectifie pas vos histoires avant, c'est pas grave, on s'en fout. On dit c'est que de la blague
compris.
Et tant pis.
On aura d'accord. Compris que Fabrice ne présente plus la classe.
Oui, c'est ça. On va avoir des plaintes pour le reste, hein. Je vous le dis tout de suite.
C'est possible. Nicolas Caron, pourquoi devrions-nous voter pour vous aujourd'hui?
Parce que, comme vous l'avez dit vous-même, la chronique était drôle, irrécente et amérudite, c'est-à-dire amusante et érudite.
Alors là, Nicolas,
en flattant
l'animateur de cette émission, ouais. À mon avis, vous gagnez des points. J'espère. Alain Sirou, pourquoi voter pour vous?
Parce qu'aucune prévision météo pouvait imaginer que l'atmosphère de l'équipée sauvage resterait aussi transparente au virus, sans modération.
Ah, pas mal aussi. Vous êtes très fort là aujourd'hui. Hein, ouais.
Alors voyons voir ce que Lionel Gougelot a à dire pour sa défense.
Il faut voter pour moi parce qu'en fait, je suis le seul aujourd'hui, avec Michel Larocque, notre invité, le seul à avoir exprimé ce que tout le monde pense, ce à quoi tout le monde aspire, c'est-à-dire se retrouver entre potes autour d'une bonne table et d'un bon verre. Et ici à Lille, on prépare ça avec la confinouse.
La confinouse, la bière du confinement, à consommer avec modération évidemment. Fred Goetti, pourquoi voter pour vous cet après-midi?
D'ici le 28 août, date de sortie du nouvel album de Gregory Porter, j'espère sincèrement que le monde ira mieux. Alors votez pour moi parce qu'en attendant, je vous ai offert un remède anti-blues à base de jazz, de soul et de gospel, la musique de monsieur Gregory Porter.
Merci Fred Goetti, notre expert musique. Alors pour ma part, je vais voter aujourd'hui, vous connaissez mon imperméabilité à toute forme de flatterie. Je vais voter pour Nicolas Caron, qui a très bien défendu son sujet en me flattant. Et Baroque,
J'hésite beaucoup, mais Gregory Porter, quoi. Fred Goetti, évidemment, que vous remportez
vous
mon point.
Vous n'aviez pas le choix.
Oui, je peux pas.
Vous n'aviez quelque part pas le choix. Romain Causeur est-il sensible au charme du chanteur à capuche ou bien a-t-il choisi un autre sujet?
Arrêtez avec ça, c'est pas possible.
Non, mais je ne vais pas voter pour le chanteur à capuche, mais plutôt pour Alain Sirou.
C'est très partagé.
Et
hein.
La météo à l'heure du confinement, Eva. Dévoilons enfin le choix de nos auditeurs qui vont trancher.
Eh bien, les deux points vont à celui qu'on n'a pas encore cité, c'est pour Lionel Gougelot et c'est lui qui remporte l'équipe sauvage.
Eh bien, sociologiquement, ça permet d'en... ça en dit long sur nos auditeurs.
Voilà,
on voit, chers auditeurs, vos centres d'intérêt, c'est-à-dire entre les néologismes, la poésie, entre la magie du jazz ou le climat, cette chronique scientifique, vous avez choisi la binouze. Eh bien, bravo à vous, chers auditeurs, et bravo à Lionel Gougelot.
J'ai activé mon réseau, hein.
La 158e journée de l'équipée sauvage. Je remercie mes confinés du jour, Eva Roque, Fred Goetti, Lionel Gougelot, Nicolas Caro, Alain Sirou et Olivier Pouls, Romain Causeur et Rémi Duprat en régie, mes télétravailleurs de l'ombre également, Philippe Amardet, Claire Dutron, Oriane Alévy et Sébastien Bordenave. L'équipée sauvage revient demain 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.